fadine de la tristesse oubliée, le bruit du cœur brisé faibli, et la cendre blanchit la braise. J'ai bu l'été comme un vin doux, j'ai rêvé pendant ce mois d'août dans un château rose en Corrèze. Fadine de la tristesse oubliée, le bruit du cœur brisé faibli, et la cendre blanchit la braise. Qu'était-ce qui faisait soudain un sanglot lourd dans le jardin, un sourd reproche dans la brise? C'est comment le noir secret de mon tourment, à son tour l'ombre se demande. Je cherchais à n'en plus finir cette douleur sans souvenir, quand parut l'aube de septembre.
Bonjour les amis, les amis qui se reconnaissent, et bonjour à toutes les oreilles tournées vers Radio Escapade. Je vous salue, vous, tous les fidèles inconnus, encore plus aujourd'hui d'être là par ces temps incertains. On va tâcher de s'accrocher et de continuer ensemble. Une petite musique avant l'édito, Fabien, s'il te plaît.
Street tonight, and the people they were dancing to the music vibe. And the boys, just the girls in their hair, while the shouts of men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning, and your hip is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four. And you're waiting outside Jim's front door. But nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Iger and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life.
Ami McDonald avec le titre This is a Life, et vous écoutez Isabelle et l'émission Didi.
Merci, merci Fabien, je dis Fabien le magicien, parce que les amis, sans lui, vous n'entendriez rien. Allez, c'est parti pour l'édito. Quel étrange temps sommes-nous en train de vivre? Insidieusement, tout change, depuis longtemps d'ailleurs. Le monde, la météo, la mer, la guerre, l'homme aussi. Mais la guerre s'installe partout, où la fierté idiote des mâles. J'avais écrit des hommes, mais je crois qu'on peut dire des mâles, ajoutés à la bêtise énorme et prétentieuse de quelques chefs présidents qui se croient les rois du monde, chassent, tuent, écrasent et démolissent. L'éducation, la famille, les hôpitaux, la justice, tout fout le camp. Et si on n'est pas d'accord, hop, on sort le 49-3. Quel magnifique gouvernement nous avons. Profitez et taisez-vous. Plus de 10 000 balles par mois pour nous représenter. La bonne blague, quelle tristesse. Même nos représentants sont décevants. Ils nous ont supplié de voter pour eux en démolissant leurs concurrents. Et aujourd'hui, eh bien, ils sont tous très, très copains. Chacun pour soi, mais tous ensemble avec les avantages. Oubliez les électeurs, rien à foutre. Quand on a un gros salaire et pas mal d'avantages, sans vraiment d'obligations, et cela pour un minimum de 4 ans, c'est formidable. Alors, c'est l'entre-soi. On oublie les autres. Comment voulez-vous rester zen ? Il y a un grave problème dans notre fonctionnement soi-disant démocratique. Demos, c'est le peuple. Avez-vous vu depuis les dernières élections qu'on nous ait demandé notre avis sur quoi que ce soit ? Non, bien sûr. Depuis des années, les gouvernements ne sont plus démocratiques. Des petits chefs, chacun à son niveau. Ils appellent ça « jouer dans la cour des grands ». Et que personne ne vienne les critiquer. Ils sont élus. Ils ont été élus. Par qui ? Ah, ils ont vite oublié, hein ? Et nagent dans l'autosatisfaction. À part quelques-uns, peut-être, Ruffin, Panot. Moi, je vois peu d'élus qui se soucient du peuple, comme ils disent, maintenant qu'ils se sentent faire partie de l'élite. Mais le niveau est tellement bas qu'on s'est retrouvé devant un choix infernal et impossible. Du moins pour moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai voté blanc. Et ça n'a pas satisfait ma colère. Ce qui est désespérant et pas constructif du tout. Je parle de ça parce que le monde est en feu. Les marchands d'armes se régalent et s'enrichissent. Vive l'Ukraine, vive Israël. En fait, ils ne vivent pas, ils souffrent, ils meurent. Je n'aime plus cette France qui vend des armes, qui jette à la mer les migrants. Et pensez-y, nous sommes tous des migrants, parce que nous venons tous d'Afrique, depuis la nuit des temps, sur cette planète. Moseka.
Tu ne verras plus ceux qui luttaient ensemble. Disparus, les journées se ressemblent. Tous ces hommes sans femmes, des quatre coins du monde, seuls dans les dortoirs, comptent les secondes. Partis si loin pour ne pas réussir, avoir un toit pour dormir. Les poings levés, le grand capital, ça fait sourire un peu mal. Portez-les vos idées, vos visages guerroyés, les moulins, les nuages, n'oubliez rien de vos rêves fous, tenez-les, portez-les jusqu'au bout. Tu ne viendras plus tourner à la Bastille le soir du grand soir avec ta famille. Coudes serrés pour bousculer le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as perdu ta front. Le temps passé à chanter dans les rues pour les causes perdues. Solidaire et marginal, ça fait sourire un peu mal.
Seguir pa'lante, aunque haya quien lo impida, sé valiente y verás que lo que
aussi des beaux visages guerroyés. Les moulins, les nuages.
Lucha por tu raza y por tu gente. Tú verás, dale cara a la vida. No te dejes vencer.
Spanish Ole Orchestra.
Bernard Lavillier avec le titre « Cause perdue » et vous écoutez Isabelle et l'émission « Dit Didi » sur Radio Escapade.
Bon, on va plonger un peu dans le canard, ça faisait un moment. Il y a des petits trafics diplomatiques à l'UNESCO. Il y a une candidate qui change de nationalité à chaque scrutin, c'est intéressant. Hein, un milliardaire libanais qui fait la pluie et le beau temps, un territoire exotique qui marchande ses postes d'ambassadeur. Enfin, c'est une drôle de mixture qui se cuisine à l'UNESCO pour tenter de faire élire en novembre une représentante de l'île caribéenne de Sainte-Lucie à la présidence de son comité exécutif, qui est l'un des deux postes clés de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. C'est dingue, ça. Alors, la première curiosité, c'est que Vera El-Khoury, qui est la candidate de Sainte-Lucie, était déjà en poste en 2017 pour la direction de l'UNESCO au nom du Liban. Oui, elle change de pays chaque fois qu'elle veut retrouver un haut poste. Ce tour de passe-passe planétaire a été orchestré par son mentor, l'homme d'affaires libano-nigérien qui s'appelle Chagouri, qui est un peu connu en France quand même. C'est un milliardaire qui trône à la tête de Chagouri Group, qui est un immense conglomérat dans plein de domaines d'ailleurs, surtout l'immobilier et les travaux publics, comme ça va bien ensemble. Il a fait fortune au Bénin, et puis en Côte d'Ivoire, et puis enfin dans un peu partout en Afrique. Alors pour mener un gentil business sans trop de casse, Chagouri s'est payé un excellent blindage. Il s'est offert le poste d'ambassadeur de Sainte-Lucie au siège parisien de l'UNESCO. C'est quand même incroyable. Le deal passé en 95 est clair. En échange de la nationalité sainte-lucienne et d'un passeport diplomatique qui lui permet d'être à l'abri de tout, l'homme d'affaires règle tous les frais de la représentation du petit État. Et en 2005, le milliardaire s'est offert une deuxième couche d'indemnité, enfin non pas d'indemnité, d'immunité, pardon, en devenant ambassadeur de Sainte-Lucie auprès du Saint-Siège cette fois. Ses fonctions lui donnent le droit d'utiliser la valise diplomatique, donc il peut se promener et passer les frontières sans rien montrer de ce qui trimballe, que ce soit une fortune, n'importe quoi, des trucs volés, des trucs... Voilà, il dispose d'un compte auprès du très pieux Institut des œuvres de religion, c'est-à-dire la Banque du Vatican, qui est célèbre pour son opacité. Voilà, on peut dire Amen. Ah, les jolis trafics diplomatiques. Bon, il n'y a pas que ça, malheureusement. Il y a plein de choses qui sont pas normales et pas supportables, dont nous dont nous parle le canard. Il y a aussi les niches fiscales en or massif des Qataris. Voilà, on vous dit, allez, on augmente les prix et tout. Et puis par contre, on fait des cadeaux immenses aux gens du Qatar qui sont blindés. Bon, ami d'Edouard Philippe et membre de la commission des finances, le député Jolivet s'est trouvé un nouveau cheval de bataille. Les avantages fiscaux dont bénéficie en France le financier numéro 1 du Hamas, le Qatar. Oui, parce qu'en ce moment, la catastrophe qu'il y a en Palestine, eh bien voilà, vous voyez, tout l'argent qui circule, eh bien, nous on en donne plein au Qatar et au Hamas. C'est quand même désespérant. À l'époque de la poursuite du débat budgétaire, il souhaite déposer au nom de son groupe parlementaire une demande d'évaluation du coût des avantages dont bénéficie ce pays. Et par convention fiscale entre Paris et Doha, ça date du 4 décembre 1990, sous la présidence de Mitterrand, on se demande pourquoi, elle avait alors pour but d'éviter les doubles impositions. Mais lorsque Nicolas Sarkozy, qui est grand ami de l'émirat, et supporter du PSG, propriétaire des Qataris, arrive au pouvoir, un avenant amendant la dite convention est signé en 2008 et les articles sont modifiés. Donc ça veut dire qu'ils exonèrent les Qataris ou leurs sociétés domiciliées en France de toute fiscalité sur les dividendes, les revenus, que ce soit locatifs, les plus-values immobilières, sur la fortune, enfin sur tout. C'est un régime exceptionnel. Signalons au passage que les membres de la famille régnante ont aussi droit à ces faveurs. Donc, ils ne payent aucun impôt en France. On a le sens de l'accueil, on ne l'a pas. Hein. Surtout qu'ils ont acheté des beaux bâtiments dans les plus beaux quartiers de Paris. En juillet 2015, Valérie Rabault, qui était rapporteure PS, de la Commission des finances, estimait que le manque à gagner pour l'État consécutif à ses attentions, s'élevait à 200 millions d'euros minimum par an. Voilà, et en 2017, bon, quelques semaines avant son élection, le candidat Macron a affirmé vouloir mettre fin aux accords qui favorisent en France le Qatar. C'était il y a 6 ans, et même, ouais, peut-être même plus, que je ne sais pas, mon calcul là, il a l'air à 6. Non, bah, ça fait bien plus de 6 ans. Et depuis, ben, il a complètement oublié sa promesse. Hein. Donc, les Qataris ne payent jamais rien en France. Voilà. Et Ciotti, le président des Républicains, a lui aussi été atteint d'une crise d'amnésie parce que ce 12 octobre dernier, au lendemain de l'attaque du Hamas, il exigeait solennellement dans une lettre ouverte au chef d'État que la France dénonce cette convention fiscale, il y allait de l'honneur de la France, en oubliant bien évidemment de préciser dans sa missive à qui était dû cet accord déshonorant. Et oui, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. On n'est pas sorti de l'auberge, les amis, parce que même si on n'est pas au milieu du drame, on en est quand même un peu les outils. Musica. Ah.
I've got money in my pocket and I just can't get no love.
No love.
Yeah. Money in my pocket and I just can't get no love.
I've got
money in my pocket and I just can't get no love.
No love.
Money in my pocket and I just can't get no love.
On the 1st and 15th, I am big league. Silver screen clean, sun winning, cause the sheen my team. I hear the ring ring, she be like T. Why you don't link me? I hear chatty chatty tell how you bring. She don't know, man I got this old dog like we. But don't want the Marco trying to settle down. See, they say you lay down with dogs, you get up and please. I'm just a frog sipping tea and this love shit ain't free. So the money up, but the love is gone. Bought a puppy dogs, she just buck a lot. So I double up with some other stuff. I bought her ice things, you know. Diamonds, pearls, yeah the stones are bright, but still no cyanide girl. She cut me deep. We had a ting like keys, but it seemed the more I love, the less I see. So I tell my heart, hush up yourself. Thank God for help. Tie my feet, tell what love you get.
I got money in my pocket, but I just can't get no love.
No love.
Money in my pocket, and I just can't get no love.
The more I love,
the more you love,
the less I see.
The less
the more I love,
yeah. got a bad man wagging, swag like Batman, leather pants sagging, but still there's no loving. I got X in my respect from all of the brethren. Cash a big check, but can't bank on love instead. I got enough money to fold, a spot we can all grow, but fight, boom, boom, keep you warm, not for your cold. Got one color duty, find a color Rooney, where she at?
Where she at?
Where she at?
Where she at?
But I miss it, tell me where she at, tell me where can she be. A long time me search, and me search already. Tell me where she at, tell me where can she be. A long time me search already. I've been searching, you can't find no love today. Searching, love seems to fade away. Cause I got money in my pocket and I just can't get no love. No love. Money in my pocket and I just can't get no love. The more I lose, the less I see. The more I lose, hey, where can it be? Whoa.
Taiwan MC, Toomy et DJ Nixon avec le titre Money in My Pocket sur les ondes de Radio Escapade.
Comme je suis vraiment déçue par l'humanité en général, je vais vous parler des oiseaux. Comment des milliers d'oiseaux peuvent-ils tournoyer de façon si coordonnée? C'est dingue, hein? Ben, la science, elle a essayé de comprendre, mais je ne suis pas sûre qu'on ait trouvé. Enfin, on appelle ça la murmuration des étourneaux qui virevoltent dans le ciel à la tombée du jour. Et puis, il y a un physicien italien qui s'en est mêlé et puis qui a essayé d'expliquer ça ou au moins d'en parler plus profondément, je ne sais pas comment dire. Voilà, on aimerait tant les imaginer se susurrer à l'oreille des instructions délicates. Vous en avez tous vu, hein, des nuées d'oiseaux par milliers et milliers. On se demande comment ils tournent sans se toucher. On se dit, ils doivent se parler, ils doivent se dire à gauche toute, demi-tour droite, je ne sais pas quoi, comme un bataillon militaire. Bon, non, militaire, il ne faudrait pas que je dise ça, comme un bataillon, ça suffit. Agile et impétueux, doté d'une sensibilité prodigieuse, puis surtout d'une écoute hors du commun. Alors tout ça existe de novembre à mars à peu près, et il faut voir les étourneaux par centaines de milliers, parfois par millions, dessiner des volutes comme ça dans les cieux, qui sont souvent crépusculaires, rouges, enfin j'en rajoute pour que ça fasse plus beau en plus, quand c'est une ronde colossale, dense, dont les mouvements sont tellement à la fois véloces et vaporeux, c'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas et en même temps ça a l'air léger, ils ne se rentrent pas dedans, je ne sais pas comment ils font. Ils semblent provenir d'une chorégraphie très précise qui serait dictée par un maître de ballet par exemple, invisible. Mais ces petits oiseaux, parce qu'ils font même pas 100 grammes, hein, chaque oiseau, ils valsent ainsi pendant des heures durant au coucher du soleil. Et ils changent de direction tous ensemble en un quart de seconde, ils tournoient en vaste nuée et ils sont vraiment synchrones. Hein. Vraiment, je comprends qu'on se pose des questions parce que je ne sais pas ce qui les dirige à ce moment-là. Peut-être qu'il y en a qui tombent de temps en temps, hein, mais je ne sais pas. J'en ai pas vu tomber, en tout cas. Et puis, après cette grande valse du soir, et bien, ils s'en vont dormir dans les dortoirs qu'ils ont dans les arbres. C'est quand même assez incroyable. C'est un spectacle d'une poésie folle, je trouve. Ça s'appelle la murmuration. Ça évoque un bourdonnement silencieux. Voilà deux mots qui s'opposent, mais bon, c'est ça, la murmuration. Et dans cette histoire, personne n'est capable d'expliquer comment ça marche. Parce qu'ils ont une coordination parfaite. Ça fait des farandoles dingues. Et ils n'ont pas l'air de se cogner, ni de trébucher, ni de faire de faux mouvements. Alors tout ça, c'est resté très longtemps un mystère. Mais on sait désormais qu'il n'est pas question de langage, ni d'indications chantées, ni même de la présence d'un étourneau chef ou grand chef qui mènerait sa colonie ni d'un guide. Mais non, c'est depuis les années 2000 qu'il y a des gens qui regardent fascinés ces murmurations quotidiennes des tourneaux, surtout dans le ciel de Rome, et spécialement des systèmes complexes pour qu'on en découvre un peu plus sur le fonctionnement de cette attraction naturelle. Alors cet Italien qui a travaillé là-dessus, qui s'appelle Parisi, il scrutait dans le ciel romain, et puis il a voulu comprendre ce qui se passait, mais même devant la beauté pure, la déformation professionnelle du scientifique prend parfois le dessus et fait naître des questions, surtout, des questions en cascade. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle « Comme un vol des tourneaux », où il livre ses souvenirs de chercheurs. Alors, il avait réuni une équipe d'ornithologues. Et puis, il a fait ça en plusieurs étapes. La première étape, c'était d'obtenir des images tridimensionnelles d'une nuée des tourneaux et puis figer une murmuration de plusieurs milliers d'oiseaux, en décortiquer chacun des soubresauts pour essayer de comprendre comment ça marchait. L'équipe s'est installée avec des appareils photos sur le toit d'un palais italien et ils ont fait un tas de photos extraordinaires. Parce que c'était un lieu de prédilection des tourneaux romains quand même. Et 2 ans ont été nécessaires à la réalisation d'un modèle exploitable. Alors pourquoi des physiciens pour comprendre ce qui semble relever du comportement animal ? Eh bien, l'analyse simultanée de milliers d'oiseaux sur des centaines de photos à reconstruire les trajectoires de chaque oiseau dans l'espace et le temps est une activité typique de notre métier, a dit ce physicien. Et avec un arsenal d'analyses statistiques, de probabilités, d'algorithmes mathématiques et sophistiqués, et beaucoup, beaucoup de patience, les chercheurs ont élucidé le mystère des murmurations. D'abord, il est établi que chaque oiseau tente à maintenir une distance plus grande avec celui qui vole devant ou derrière qu'avec ceux qui volent à ses côtés. Un peu comme les voitures sur une autoroute. Oh, c'est horrible de dire ça. Et ensuite, roulement de tambour, que l'interaction entre les étourneaux ne dépend pas, je continue parce que je vous lis l'article là, tout d'un coup, ne dépend pas tant de la distance qui les sépare que de la connexion entre les oiseaux les plus proches. En clair, il semble que chaque étourneau agit en fonction de ses 5 ou 7 voisins, maximum. Alors si un étourneau glisse d'un quart de tour à droite, il y a fort à parier que son voisin direct lui emboîte le pas. Et l'ensemble constitue des centaines de milliers d'individus qui tiennent miraculeusement la route, des centaines de fois par minute. C'est dingue. Alors une découverte évidente, en physique et en mathématiques, l'effort nécessaire pour comprendre quelque chose de nouveau pour la première fois est absolument disproportionné par rapport à la simplicité et au naturel du résultat. Eh oui. En science comme en poésie, on ne trouve plus trace du dur labeur du processus créatif et des doutes et des hésitations qui l'accompagnent. Ça, c'est vraiment une parole de philosophe. Et pour une physicienne spécialiste de la turbulence, qui s'appelle Bérangère du Brûle, eh bien, j'ai perdu ma ligne parce que je vous parlais de la turbulence. Ah oui, cet ordre global à grande échelle est justement ce qui est très étonnant, car si on peut prédire le comportement de 3 étourneaux, on ne peut pas prévoir le phénomène créé par 1000 étourneaux. Alors le physicien américain Warren a théorisé cela en 72 avec une formule « more is different ». Alors plus il y a d'entités, moins le comportement singulier s'applique à l'ensemble, qui pourtant paraît ordonné. On appelle ça la loi du désordre. Ah, c'est bien, ça me plaît ça. Elle ne s'exprime que lorsqu'il y a beaucoup, beaucoup d'individus. Et même le chaos répond à des règles physiques. Alors, eh oui, Dieu ne jouait pas au dé, disait Einstein. Bon, alors, revenons aux étourneaux. Ils savent qu'ils participent à quelque chose de grand. Je ne sais pas, on se demande. Chaque individu n'a accès qu'à une fraction infime de l'information sur le collectif, parce qu'il ne voit pas les autres, évidemment. Et ben, on pense qu'aucun n'est conscient de ce qu'il est en train de produire avec les autres, parce qu'ils ne se voient pas, mais ils doivent bien se sentir. Et des milliers de danseurs étoiles à plumes, ne percevant rien de leur exquis ballet, ça rendrait presque mélancolique. Moi, je suis sûre qu'ils sentent très bien. Et pour les chercheurs, ça doit même les enivrer, je suis sûre. Pour les chercheurs, il faut imaginer les murmurations des tourneaux comme un vaste tapis volant se repliant dans l'espace. Bon, ils ont les images qu'ils veulent. Alors, il y a une éthologue qui est directrice de recherche au CNRS qui étudie depuis des années la communication chez les étourneaux. Elle dit que c'est une espèce particulièrement sociale et vocale. Sauf justement lorsqu'il s'agit d'organiser une murmuration. À ce moment-là, les oiseaux choisissent en général entre voler et vocaliser. Ils ne font pas les deux en même temps. Les murmurations sont donc assez silencieuses. Et la communication est essentiellement dans leur mouvement. En revanche, au moment où les étourneaux se posent dans le dortoir, dans un arbre, et ça prend du temps, ils sont si nombreux, on peut entendre à ce moment-là un énorme chorus, ils piaf-piafent tous, et on entend qu'ils palabrent pour savoir quel camarade tolérer à leur côté pour la nuit. Enfin, c'est ce qu'on traduit, hein. Et pourquoi tournoyer des heures en silence avant l'épuisement loquace? Mais on ne sait pas. Et c'est précisément ce qui est fabuleux. Peut-être pour la beauté, peut-être pour la bonté du cœur de l'étourneau, qui est un artiste qui s'ignore. Peut-être simplement pour se fatiguer avant d'aller dormir. Je ne sais pas, tout est possible. Vous pouvez rêver aussi. Moseka.
Dieu que cette histoire finit mal. On n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne ton dos contre mon dos. Que vois-tu? Je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser.
Le courage des oiseaux. Vous écoutez Isabelle et l'émission Dididi.
Bon, je reste avec les animaux. Les hommes sont trop durs en ce moment. Bon, j'ai vu des gens pleurer comme des gosses après avoir subi des pertes. Des pertes de quoi? Ben, des pertes de, justement, de petits animaux nuisibles ou d'oiseaux. Beaucoup d'associations de protection de la nature mettent en cause l'élimination des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Évidemment que ça peut occasionner des dégâts. La plupart des membres de ces associations habitent dans les grandes villes et ne sont pas concernés par les difficultés à cohabiter avec certains animaux. Peut-être n'est-ce pas une bonne chose d'avoir construit des lotissements sur des territoires forestiers qui étaient habités par d'autres gens, avant par d'autres animaux. Mais il faut bien en tirer les conséquences, on ne va pas abandonner les habitants. Je vous rappelle que nous, piégeurs, n'allons pas chasser les ésodes. Je ne sais pas ce que c'est que les ésodes. Nous ne faisons que répondre aux appels reçus. Quand une fouine vient grignoter les durites d'un véhicule au point de mettre une compagnie de pompiers dans le pétrin, d'accord, faut intervenir. Même chose quand un renard porteur de la gale trouve refuge dans un jardin et risque de contaminer les chiens, ou quand les corvidés s'attaquent aux semis des tournesols et du maïs, provoquant des millions d'euros de dégâts. Ça fait beaucoup, je crois. Vous savez, j'ai vu des gens pleurer comme des gosses après avoir subi des pertes. Ben oui, mais récemment, on piège aussi des martres qui ont dévoré pour 50 000 euros de pigeons voyageurs. Des bêtes patiemment sélectionnées. Je ris, je ne devrais pas rire, mais c'est vrai que on fait de l'élevage, on ne veut pas qu'on nous le tue, mais quand c'est la bête qui vient tuer, on n'est pas d'accord. C'est compliqué, hein. Pourquoi pas privilégier l'éloignement et l'effarouchement des animaux sur l'élimination ? Aïe, 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 aïe. Moi, je sais que j'ai des sangliers qui tournent autour de la maison toutes les nuits, mais ça ne me fait rien du tout. Je ne comprends pas qu'on soit à vouloir tuer absolument dès que ça passe chez soi. D'abord, on a décidé que c'était chez nous, alors que c'était certainement chez eux avant. Et je ne vois pas pourquoi nous, on aurait un truc de propriété et pas les animaux. Hein. Enfin. Ah, mais c'est... Alors, si on fait des grillages, on électrifie, on fait des frontières et tout, mais... C'est quand même des centaines de milliers d'animaux qui sont tués chaque année. Alors, on se demande si c'est vraiment à nous de le faire. Je ne suis pas tellement d'accord. Hein. Déjà, je déteste la chasse. Mais dans chaque département, les préfets s'en mêlent, lesquels doivent justifier de toutes les demandes d'élimination auprès du ministère de la Transition écologique. Ça, c'est nouveau et c'est tant mieux. Et n'oubliez pas que si demain le piégeage disparaît, le risque est grand que les riverains décident de faire justice eux-mêmes. Bon, faut pas exagérer, hein. Bon, enfin, c'est vrai que en général, l'homme n'aime pas qu'on aille sur son territoire, alors qu'il est arrivé des millions d'années après bien des animaux. Hein. Mais ça, c'est oublié. Ah, c'est compliqué. Bon, mais non, mais je veux pas non plus nous assommer avec ça. C'est très difficile en ce moment de parler de ce qui se passe dans le monde parce qu'on est fiers de rien, en fait. Et on va se rabattre sur la musique avec bonheur, si tu veux bien, Fabien.
Le dos couvert d'écailles, on sent la paille dans la faille, et quand on ouvre la porte, une armée de cloportes vous repousse en criant, ici pas de serpent. Animal, on est mal. Deux cornes placées sur le devant du nez, on s'abaisse, on s'affaisse, on a la queue qui frise, on a la peau épaisse, on a la peau grise. Et quand on veut sortir avec une demoiselle, on l'invite à dîner, quand elle vous voit, que dit-elle? Il ne vous manque qu'une bosse, va des rétro-rhinocéros. l'impération de la girafe. La voilà qui se retrouve le couple d'agrafe. Elle appelle au secours. On veut lui mettre un pantalon mais il est trop court. Animal, on est mal. On pond ses œufs dans le sable. Et quand on passe à table, les chevaux vapeur. On prie peur de se retrouver loin de leur étable. En revivant peut-être dans la peau d'un humain. Animal, on est mal. Mais tu reconnaîtras les siens. On est mal.
Mais tu reconnaîtras les siens. Mais tu reconnaîtras les siens.
On est mal.
On est mal. Tu reconnaîtras les siens.
Gérard Mancé avec le titre Animal, on est mal sur les ondes de Radio Escapade et vous écoutez Isabelle dans l'émission Didi.
Alors pour finir avec un artiste, une artiste en l'occurrence, je parlais d'une photographe que je ne connaissais pas du tout mais qui est morte il y a belle lurette, ça ne fait rien. Elle s'appelle Julia Margaret Cameron et elle a actuellement une grande expo à Paris au Jeu de Paume. Bon, je sais, c'est Paris, c'est le Jeu de Paume, mais ça fait rien, ça. C'est pour vous faire connaître cette artiste qui est une novatrice dans l'art du portrait. Elle s'y est mise assez tard, elle était déjà mère de famille nombreuse, elle s'est lancée dans la photo à 48 ans. Et dans ses œuvres, inspirées de l'iconographie religieuse, qui était ses repères évidemment, elle revendique l'usage du gros plan, du flou artistique, des accidents techniques, enfin voilà. Et ça lui permet de capter davantage l'essence des émotions et de les sentiments que peuvent ressentir ses modèles. Donc c'est quand même quelqu'un qui a fait de la recherche et qui a pris une voie nouvelle. Enfin, la photographie n'était pas ancienne à ce moment-là. Hein. Alors voilà, elle s'appelle donc Julia Margaret Cameron. Elle est née en 1815 et morte en 1879. C'est une femme de la haute bourgeoisie britannique coloniale. La famille possède des plantations de café et de caoutchouc à Ceylan. Elle a 48 ans et 6 enfants lorsque sa fille lui offre son premier appareil photo. Donc elle a plus de 40 ans. Et elle va se faire une chambre photographique avec des plaques de verre au maniement très compliqué. Elle va pas se le faire. Elle l'a avec son appareil, quoi. Mais elle va apprendre à s'en servir. Elle est sur l'île de Wight et elle a tout fait transformer un poulailler en studio et sa cave à charbon en chambre noire, paraît-il. Le portrait qu'elle tente de la fille de son voisin est si vivant qu'elle en est transportée de joie. C'est sa première réussite. Elle commence à trouver un style singulier. Sa vision est tout à fait différente de celle des autres. C'est une œuvre uniquement centrée sur la figure humaine. Elle se fout pas mal des imperfections, pardon, je ne trouve plus mes mots, et elle est juste plutôt du côté de la poésie, du flou et elle voulait, je sais pas, elle cherchait la beauté à sa façon, simplement. Voilà. Elle est donc saluée actuellement par une rétrospective au Jeu de Paume à Paris. Et comme elle a laissé à peu près 10 ans de boulot, il y a plus d'un millier de portraits extraordinaires, mélancoliques, influencés par des compositions qui ressemblent aux artistes de la Renaissance ou pré-raphaélique. Enfin, c'est vraiment un nouveau chemin pour les photographes et c'est d'une douceur et d'une beauté assez extraordinaire d'après les images que j'ai vues. Voilà les amis, je voulais vous parler d'une chose un peu douce et un peu belle à la fin de cette émission. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même plaisir pour ma part. Merci mille fois Fabien de m'accompagner chaque semaine.
Alors, ciao les amis.
Adios. Adios. Adios to your afternoon. Cause tonight I'll be forever following the Colosseum moon into a certain room. Adios. Adios. I'm sorry for quickly jumping into the train. I waited, but no one came. You were just too late. That decision is mine. That decision is mine. So let the lesson be mine. Let the lesson be mine. That decision is mine. That decision is mine. Cause the vision is mine. The vision is mine. Adios.
Yes, sir.
Adios. Adios to the little child in me who kept on blaming everyone else instead of facing his own defeat. After all, why should I have any regret? If it wasn't for my mistakes I made yesterday, where would I be by now? The decision is mine. The decision is mine. So let the lesson be mine. Let the lesson be mine. The decision is mine. The decision is mine. Cause the vision is mine. The vision is mine.
A lot of people have been coming up to me lately talking about how, you know, Benjamin, why is it so that, you know, you're young but yet your world seems to be very dark and you seem to be almost possessed? I think that's quite funny because when I'm on my journey, you know, and I'm, you know, figuring things out, I do come across, surprisingly, angels. They come to me and they sing to me so beautifully. And if I can recall very clearly, their melodies, it goes something like this.
Le saut, le saut, le
lest the trees cease breathing, lest the bees cease breeding, and all the salt in the Dead Sea ferments to honey. Until then, I'll be forever chasing, chasing, chasing it all to the very end. That decision is mine, let the lesson be mine, cause the vision is mine, the decision is mine.